Le 16 juin 1675, Jésus demande à Marguerite-Marie Alacoq de promouvoir un élan spirituel en l'honneur de son Sacré-Cœur. N'oublions donc pas, chers amis auditeurs, de bien écouter ce que le Christ nous dit, il y a presque 350 ans, par cette petite religieuse bourguignonne. Le cœur sacré de Jésus est le lieu de l'amour infini de Dieu pour l'homme, alors blottissons-nous-y en ce mois de juin. Bonjour à tous, bienvenue à Magnificat, l'émission de l'association Marie de Nazareth. Nous approchons des vacances estivales, mais nous serons présents à vos côtés fidèlement. Profitez-en pour lire et rendez-vous sur notre librairie en ligne, sur le site mariedenazareth.com et vous y découvrirez des trésors à lire cet été. Justina nous parlera aujourd'hui du sacrifice du Christ et notre invité Pascal Zito, que vous connaissez peut-être déjà, puisqu'elle a fondé l'association DIA, nous parlera de la Vierge de Vellankani en Inde. Voilà, alors partons sur ce sacrifice du Christ. Je précise juste que Justina développera le concept du sacrifice en tant qu'offrande et non comme mortification. Bonjour Justina.
Bonjour France, bonjour chers auditeurs. Comme je l'avais promis la dernière fois, nous allons parler du sacrifice du Christ et plutôt pourquoi le sacrifice. Dans les milieux chrétiens, on l'évoque comme si c'était une banalité qui va de soi. Dans les milieux athées, on comprend à peine de quoi il s'agit. Rappelons-nous, pour commencer, que le mécanisme de sacrifice dans le fait religieux, au sens large, qu'est-ce que ça représente ? Le sacrifice est une pratique culturelle largement présente sur tous les continents et se trouve au centre de n'importe quelle religion qu'elle possède ou non des textes sacrés. Dans les cultes qui ne possèdent pas de texte sacré, il s'agit essentiellement de tentatives de nourrir ou de corrompre les esprits des ancêtres, l'animal totem et enfin les divinités, dans le but de les apaiser et peut-être obtenir des faveurs en retour. Nous sommes donc dans une relation de marchandage. La locution latine définit ce principe comme « votum donum stips », ce que je demande, ce que j'offre, ce que j'obtiens. Dans les religions qui possèdent une tradition écrite, on retrouve aussi des pratiques similaires, ainsi que le mythe fondateur qui tourne autour du premier sacrifice accompli par les dieux. C'est le cas de la fameuse, et que j'aime beaucoup, la mythologie sumero-acadienne, donc dans le récit de Enuma Elish, avec, comme la dernière fois je l'ai déjà évoqué, le dieu Marduk qui tue Tiamat et façonne le monde avec sa dépouille. C'est le cas aussi dans l'hindouisme, où l'homme primordial, Purushu, est sacrifié par les dieux. La mythologie grecque représente une succession de patricides et la place des hommes et des dieux se joue aussi autour du sacrifice avec la participation de Prométhée. Ce qui est commun à tous ces récits, selon la pensée de René Girard, dont j'apprécie beaucoup la pensée, que je vais beaucoup citer, est que le mythe fondateur tourne autour du sacrifice d'un être à la fois coupable, mais à la fois innocent, car même s'il mérite un châtiment selon la logique en termes du mythe, il ne pouvait pas faire autrement que d'être coupable. Le sacrifice est donc une fatalité inévitable, et les hommes, par magie sympathique et imitation des actes divins, sont enroulés dans le paradigme sacrificiel. Un sacrifice collectif, selon Girard, permet d'identifier le bouc émissaire et déchaîner la violence accumulée dans la société contre lui, ce que permet un apaisement temporaire jusqu'au prochain sacrifice. La violence institutionnalisée et ritualisée permet aussi d'éviter la responsabilité personnelle et ainsi le cercle vicieux de la vengeance. Mais voilà le hic quand nous parlons du sacrifice du Christ. Ici, si on prenait son histoire comme un mythe fondateur du christianisme, la victime est parfaitement innocente et ne mérite pas la violence subie. Nous ne rentrons pas plus dans les critères habituels du mythe fondateur sacrificiel. Une autre question qui se pose, s'il s'agit d'un sacrifice religieux, il y a bien un émetteur du sacrifice, la victime et le récepteur. Pour ce qui est de la victime, c'est clair, c'est Jésus-Christ en personne. L'émetteur, le grand prêtre sacrificateur, est aussi le Jésus-Christ en personne, tel que le décrit l'apôtre Paul dans son épître aux Hébreux, où il parle de Jésus-Christ comme d'un seul et unique prêtre, et les prêtres du temps d'Abraham ou de Paul n'étaient pas des gens qui faisaient des sermons, mais c'était vraiment des sacrificateurs, vraiment c'était une boucherie, hein, la religion. Donc, on sait qui est le sacrificateur, on sait qui est la victime, mais excusez-moi, qui est le récepteur du sacrifice ? Et là, il y a plusieurs réponses possibles. La première, qui d'ailleurs peut être même très logique au premier abord, si le Christ cherche à apaiser quelqu'un par son sacrifice, ce pourrait être celui qui règne sur le Sheol, sur la mort, c'est-à-dire Satan qui retient les captifs dans le Sheol, le séjour des morts, qui, en soi, le Sheol est un résultat de la chute de l'humanité. Cette hypothèse est reniée par la majorité absolue des pères de l'Église, car ce serait tout simplement du satanisme. Ouais. On ne négocie pas avec les terroristes et encore moins avec le malin en personne. Ouais. Deuxième option, qui est l'option choisie par l'Église catholique romaine, le récepteur du sacrifice du Christ est Dieu le Père. Puisque Adam a commis un crime contre Dieu, sa faute est multipliée par le statut éternel de la partie offensée, et Dieu seul peut payer la réparation afin de satisfaire la soif de justice du Père. C'est une pensée très ancrée chez les pères occidentaux et qui est fortement inspirée par la jurisprudence romaine. En tant qu'orthodoxe, mais pas seulement, si je peux me permettre, ce n'est pas la meilleure façon de l'expliquer, en tout cas aujourd'hui. Car si je transpose, admettons que vous et moi, on a eu un conflit, vous m'avez fait du tort, et je vous fais la gueule pour une bonne raison. Et je me dis, bon, je devrais quand même vous pardonner. Mais comme ma soif de justice doit être assouvie, je vais d'abord égorger mon fils. Cela me paraît assez indigne, même pour un être humain. Alors, qu'en est-il de Dieu ? L'autre hypothèse du récepteur serait celle qui est présente chez les orthodoxes, mais approuvée seulement dans le cadre d'un concile local, où le récepteur est la Trinité. Et donc l'hypostase du fils aussi. Dans ce cas-là, la boucle serait ferme et le Christ est à la fois le sacrificateur, l'offrande et le récepteur. Le problème de ces deux hypothèses, c'est qu'elles excluent totalement la place de l'humain. Et comme le disait Léon Tolstoï, un hérétique, certes, mais qui pour le coup avait raison, si Adam a péché à ma place et que Jésus a payé la facture, qu'est-ce qu'il me reste à faire ?
Bien vu.
De ce fait, pardonnez-moi et ne me mettez pas sur un bûcher, les amis, mais je reprends le credo et le paragraphe qui parle de Jésus-Christ, qui pour nous, les hommes, et pour notre salut, descendit des cieux. Factuellement, qu'on soit à la messe catholique ou à la liturgie orthodoxe, le récepteur est l'Église. Et l'Église n'est rien d'autre que l'assemblée des fidèles humains. Nous sommes donc, dans un modèle sacrificiel inversé, nous n'essayons plus de nourrir, corrompre, apaiser Dieu, mais c'est lui qui nous nourrit de lui-même. Et dans ce cas-là, ce sacrifice était vraiment nécessaire et inévitable, non seulement dans le sens anthropologique de montrer à l'humanité déchue ce qu'elle est, et ça c'est bien vrai, mais aussi qu'il y a eu assez de sacrifices, car le sacrifice ultime a eu lieu. Il a mis fin à cette boucle infernale de la violence et ce sacrifice s'est produit sur la croix.
Merci beaucoup, Justina. Très intéressant, vraiment. Alors, écoutons à présent un cantique en hindi qui célèbre la grandeur de Dieu.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Alors, bienvenue Pascal Zito à l'émission Magnificat. Vous avez appelé la permanence de l'association Marie de Nazareth pour prendre contact avec nous. Et voilà, nous allons pouvoir à présent mettre en application ce projet d'émission pour parler de la Vierge Marie en Inde. Pascal, vous avez créé l'association DHYA, D-H-I-Y-A, qui s'occupe de jeunes défavorisés en Inde. On en parlera à la fin de l'émission, bien sûr. Mais tout d'abord, nous allons parler d'un haut lieu spirituel. J'ai dans les mains un livre que vous m'avez gentiment envoyé. Vous nous y parlez de Velankani, situé dans un état du sud de l'Inde. Que s'est-il passé là-bas à la fin du XVIe siècle? Racontez-nous cela, parce que en France, nous ne connaissons que très peu, voire pas du tout, ce lieu d'apparition.
Oui, en effet, ce lieu d'apparition n'est pas connu en France. Oui. Je l'ai découvert, bien sûr, lors de mes séjours en Inde et avec étonnement. Donc, Velankani, il est un village du sud de l'Inde, de l'état du Tamil Nadu. Il se situe au bord du golfe du Bengale, à 150 km au sud de Pondichéry. Et aujourd'hui, Velankani est toujours un village de pêcheurs, mais il est occupé par un très grand sanctuaire de 40 hectares, dédié à la Vierge Marie en hommage aux apparitions qui datent en effet du XVIe siècle. Il y a eu deux apparitions au XVIe siècle et ensuite de nombreux miracles ont eu lieu à Velankani. Et il y a un nombre de pèlerins considérable qui vient prier la Vierge Marie.
Alors quelles sont ces deux apparitions?
Alors la première apparition a eu lieu au XVIe siècle auprès d'un petit berger. Oui. Et puis la deuxième apparition a eu lieu quelques années plus tard, toujours au XVIe siècle, à la fin du XVIe siècle, auprès d'un petit voyant qui était paralytique et que la Vierge Marie a guéri instantanément. Alors on imagine la réaction des villageois à l'époque, puisque cet enfant était connu pour son handicap et on l'a vu marcher du jour au lendemain. C'est ainsi que la nouvelle s'est répandue à la vitesse qu'on imagine, de bouche à oreille. Et petit à petit, de nombreuses personnes sont venues prier dans une petite chapelle qu'on avait édifiée, qui était la toute première petite chapelle qui n'existe plus aujourd'hui. C'était une petite paillote sur laquelle on avait pressé un autel et une petite statue de la Vierge Marie. Les gens venaient et il y a eu de nombreux miracles de guérison. C'est ce qui a valu très très vite à Marie le nom de Notre-Dame de la Santé.
Alors, comment est représentée la Vierge Marie? Est-ce qu'elle a un attribut particulier? Est-ce qu'elle est apparue avec un sari?
Elle n'est pas apparue avec un sari. Elle est apparue dans un vêtement blanc, très très blanc, et selon les témoignages, un halo lumineux. Mais très très vite, on l'a vêtu d'un sari, vous savez, ce précieux vêtement que les femmes indiennes portent. Et dans le sanctuaire, elle est au cœur de la basilique, bien sûr, dans une niche, et elle est vêtue toujours d'un beau sari, et elle est changée très régulièrement parce que les femmes qui viennent en pèlerinage en Inde, à Velankani, déposent ce précieux vêtement dans une urne qui est à l'entrée de la basilique.
Ah oui, d'accord. Très bien. Et alors, c'est une Vierge couronnée?
C'est une Vierge couronnée. Elle porte donc, sa tête est ornée d'une couronne surmontée d'une croix. Oui. Et elle est auréolée d'une douzaine d'étoiles. Elle porte l'enfant Jésus sur son bras gauche et dans la main droite, elle porte un sceptre et elle est juchée sur un croissant de lune. Voilà la représentation totale de Notre-Dame de la Santé. C'est aussi comme ça qu'on l'amène dans les églises, nous, que ce soit à l'église Saint-Sulpice ou dans toutes les paroisses qui veulent bien nous recevoir.
D'accord. Alors, vous avez un paragraphe sur la tradition du pèlerinage en Inde qui semble être très ancrée et très, très suivie. Et comme toujours, lorsque nous parlons de la population indienne, tout est démesuré à nos yeux d'occidentaux. Je lisais 20 millions de pèlerins par an.
20 millions de pèlerins par an. Et c'est pourquoi on appelle Velankani Lourdes d'Orient en Inde.
Mais ce sont essentiellement des Indiens ou alors de par le monde, tout le monde afflue vers Velankani?
Alors la particularité, c'est le même nombre de pèlerins qu'à Guadeloupe. Mais la différence, c'est que les pèlerins sont indiens, essentiellement indiens. Rares sont les pèlerins qui viennent d'un autre pays.
D'accord.
Très, très rares.
Et ce sont des indiens catholiques ?
Alors, puisque le christianisme est encore une religion minoritaire en Inde, puisqu'on compte environ 30 millions de chrétiens pour 1,4 milliard d'habitants, les pèlerins sont bien sûr chrétiens, mais il y a également des pèlerins hindous et musulmans qui viennent confier à Marie leurs soucis de santé, leurs chagrins ou toutes leurs demandes.
Donc ils croient en la Vierge Marie ?
Ils croient en la Vierge Marie. En tout cas, ils en ont bien entendu parler et ils ont entendu parler des miracles.
Et il y a eu beaucoup de conversions ?
Alors non, pas tellement. Non, on ne parle pas tellement de conversions. D'ailleurs, c'est un pays qui n'accepte pas beaucoup les conversions. Il y a des États qui ont des lois anti-conversion, mais les gens viennent avec leur cœur d'hindou ou de musulman se confier à Marie. C'est très, très impressionnant de voir ça.
Ouais, ceci dit, on ne sait pas ce qui se passe dans les cœurs, et c'est vrai que les catholiques sont très persécutés en Inde, donc effectivement...
Oui, en particulier dans le nord de l'Inde, beaucoup moins dans le sud, où ils sont plus nombreux.
D'accord. Alors, nous l'appelons Notre-Dame de la Santé, donc par ce vocable, comme vous l'expliquiez, ce petit garçon qui fut guéri, elle doit être quand même énormément priée dans le monde, parce que Notre-Dame de la Santé concerne tout le monde.
Alors, la santé concerne tout le monde, mais elle n'est pas tellement connue. Il y a des pays quand même où elle est représentée. En France, elle est très, très peu représentée. Il faut, pour pouvoir rencontrer Notre-Dame de la Santé, être auprès d'une communauté tamoule. Sinon, on a peu de chances de rencontrer Notre-Dame de la Santé dans les églises de France. C'est pour ça que moi, j'essaye de la faire connaître, parce que quand je suis allée à Vélancani, je l'ai vraiment reçue comme une évidence qu'il fallait ramener cette dévotion, la faire connaître en France et faire connaître aussi la neuvaine et les prières à Notre-Dame de la Santé que les pèlerins viennent réciter parce qu'il y a les textes écrits là-bas, mais ils n'étaient qu'en tamoul jusque-là.
D'accord. Alors, vous semblez très liée à l'Inde. Hein. Vous y avez connu les apparitions de Vélancani sur place ou vous les connaissiez déjà avant ?
Alors, je les ai découvertes sur place parce qu'en fait, nous avons été conduits, mon mari et moi, en Inde par un ami indien, un prêtre indien qui était venu en mission d'études aux missions étrangères de Paris.
Oui.
Et nous avons noué des liens d'amitié qui existent toujours et il nous a emmenés sur les pas des chrétiens de l'Inde. Et c'est là qu'avec étonnement, j'ai découvert Vélancani, cet immense sanctuaire et cette vénération.
D'accord. Alors, vous avez donc, j'imagine, suite à ça, créé l'association DIA ? Ou alors, non ?
À la suite de notre premier voyage, nous avons créé l'association DIA parce que, outre le fait de découvrir le christianisme en Inde, nous avons aussi découvert la pauvreté. Et nous nous sommes dit en rentrant qu'on ne pouvait pas ne rien faire. Donc, nous avons construit une école solidaire pour les enfants pauvres du village de ce prêtre, d'ailleurs.
Et qui se trouve à Vélancani ou pas du tout ?
Ah non, beaucoup plus bas que Vélancani. Il se trouve presque à la pointe sud de un village d'un nom très, très difficile que personne ne retient, qui s'appelle Rajagopalapéry.
Effectivement.
Et qui n'est connu de personne, naturellement. Il n'est pas sur les guides touristiques, mais c'est le village où est né notre ami. Et nous voyons cette réalité et la pauvreté des personnes, des familles, et la pauvreté éducative, nous avons décidé d'aider les enfants à suivre des études et nous les accompagnons dans leurs études jusqu'à l'emploi.
Ah oui. Et alors, c'est une école ? Ce sont des enfants de quel âge qui, peuvent aller apprendre à lire et écrire ou un peu plus grand ?
Non, c'est plus tard parce que l'école est obligatoire en Inde. Donc, ils viennent dans notre école à nous à partir de 5h30 après l'école obligatoire.
Oui.
Et en fait, c'est un centre de remise à niveau de façon qu'ils puissent rattraper leur retard et entrer dans des établissements de bon niveau pour pouvoir préparer correctement leurs examens. Et on a une équipe de professeurs qui les prépare aux examens.
D'accord.
Donc, voilà, maintenant, on a des bacs plus 3 actuellement. Là, on est très, très heureux.
Oui, j'imagine. Et, et ces enfants sont exclusivement ceux du village ou alors l'école draine ?
Non, exclusivement ceux du village. Comme vous le dites, un village, c'est tout de suite plusieurs milliers de personnes là-bas.
Oui.
Donc, il y avait largement de quoi faire dans le village.
Et il y a combien d'élèves?
Toujours à peu près entre 80 et 100.
Et comment est-ce qu'on peut vous aider alors?
On peut nous aider en allant sur notre site ou en nous écrivant. Alors notre site c'est www.associationdia.org ou bien en nous écrivant indiaetparis@gmail.com.
Formidable. Alors, c'est très touchant de découvrir tout cela. Alors, vous avez édité une neuvaine.
Oui.
Parlez-moi de cette neuvaine.
Alors, cette neuvaine, c'est donc la neuvaine qui est lue par tous les pèlerins qui vont à Vellankani, qu'ils soient chrétiens d'ailleurs ou hindous. Et cette neuvaine n'existait qu'en tamoul,
oui,
avec une vague de traduction anglaise qui ne reprenait pas du tout, qui ne tenait pas compte de la sensibilité ni de la poésie indienne.
Oui.
Et donc moi, j'ai vraiment reçu ça très très fort. Il faut la faire connaître en France. Et donc le livre est parti de là. Et j'ai été bien sûr aidée par un prêtre missionnaire en Inde, le père Lucien Le Grand, pour la traduction du tamoul vers le français.
D'accord.
Et j'essaye de faire connaître cette neuvaine en France et j'ai donc initié les grandes veillées de prière annuelles à l'église Saint-Sulpice à l'occasion de la Journée mondiale des malades. Et cette célébration est toujours présidée par un évêque en présence de la communauté tamoule, de l'aumônerie, de l'aumônier et d'une dizaine de prêtres majoritairement indiens.
Il me semble avoir vu que Monseigneur Toi avait célébré une de ses messes, n'est-ce pas?
Oui, il y a une Monseigneur Toi, Monseigneur Philippe Marsay, et la prochaine veillée qui aura lieu le 14 février, ce sera encore Monseigneur Philippe Marsay qui va la présider.
Alors, cette neuvaine est éditée chez Life Edition, donc pour les personnes qui voudraient se la procurer. Est-ce qu'on peut la trouver sur le site de votre association?
Non, elle est en librairie. On
d'accord,
pas
uniquement.
Sur le site.
D'accord,
voilà,
très bien.
Uniquement en librairie. Elle est facile à trouver. Il suffit de le demander à la procure ou d'autres
alors,
libraires.
Alors, vous pouvez redites le nom. C'est le
Les nom Merveilles de Notre-Dame de la Santé, Life Edition.
Voilà, très bien. Alors, cette neuvaine, bien évidemment, je l'ai parcourue. Elle n'est pas trop difficile. On sent vraiment qu'elle s'adresse à tout le monde. Il y a une très belle prière à la fin. Qui l'a écrite, cette prière à Notre-Dame de Vellankani?
On ne sait pas. On ne sait pas.
D'accord.
Non, il n'y a pas d'auteur.
Oui.
C'est anonyme. Je suppose, j'imagine que c'est un prêtre, mais je ne peux pas l'affirmer. On ne sait pas. Je n'ai pas pu avoir l'auteur de la neuvaine. Et on ne sait pas de quand elle date.
C'est ce que j'allais vous demander. Elle est priée depuis les apparitions, presque. Enfin,
pratiquement. Je pense.
D'accord. Très bien. Alors, je vais vous lire un petit témoignage d'un miracle qui a été attribué à la Vierge qui consolide la renommée de Vellankani. L'histoire se déroule au XVIIe siècle, comme vous le disiez tout à l'heure. Un navire marchand portugais arrivant de Macao se dirige vers Colombo, au Sri Lanka. Tandis qu'il traverse le golfe du Bengale, une terrible tempête se déchaîne, mettant en péril tout l'équipage. En détresse, les marins s'agenouillent et prient la Vierge Marie de la sauver, comme très souvent. Et ils font le vœu de bâtir une église en son nom, en reconnaissance de sa protection. Leur demande est exaucée. Aussitôt, le vent s'arrête et la mer se calme. Les marins s'échouent sains et saufs sur la plage de Vellankani. Éperdus, ils se jettent à genoux sur le sable pour remercier Marie de les avoir secourus. Ils sont rapidement rejoints par des pêcheurs locaux qui, les voyant ainsi prier, comprennent que les naufragés sont catholiques. Les pêcheurs les conduisent alors à la petite chapelle dédiée à la Vierge Marie, construite plusieurs années plus tôt par un fidèle de Nagapattinam. En découvrant la statue de la Vierge et l'enfant qui trône sur l'autel, les marins se prosternent devant elle pour rendre grâce. C'est avec stupéfaction qu'ils réalisent que la chapelle est dédiée à Notre-Dame de la Santé et que ces événements extraordinaires qui leur sont arrivés ont eu lieu un 8 septembre, jour où l'on célèbre la nativité de Marie. Les marins tiennent leurs promesses et rapidement font construire une chapelle en dur de 8 mètres sur 4, surmontée d'un dôme en place de la chapelle au toit de feuillage séché. Une grande ferveur accompagne le moment de l'inauguration. Au cours de leurs divers voyages en provenance de Macao, les marins font plusieurs fois escale à Vilancani. À chaque passage dans le village, ils apportent quelques améliorations à la chapelle. Et voilà, c'est très beau. Eh bien, merci beaucoup, Pascal, de nous avoir fait découvrir Vilancani. Je rappelle aux auditeurs que, voilà, ils peuvent, et je leur conseille d'aller sur le site de l'association DIA pour aider ces enfants. C'est toujours très agréable de savoir qui est derrière ce genre d'association et de voir le beau boulot, si je puis me permettre, que vous faites. Donc, merci beaucoup, merci. Cher Pascal. Et je dis à tous nos auditeurs de ne pas hésiter à nous contacter si vous aussi souhaitez intervenir dans l'émission. Bonne semaine et à très bientôt. Au revoir. Au revoir, Justina.